Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Radio.
Le retour de Mario Dumont.
2 heures d'info. De 15 à 17.
Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
Mario Dumont et Vincent Desureau.
Le retour de Mario Dumont.
Et c'est presque l'été. Bon vendredi tout le monde. Notre dernière de la saison. C'est ma dernière. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
Parce que toi, c'est le contraire. Là. Toi, c'est ta dernière cette collaboration, mais t'amorces un nouveau défi pour une émission d'été qui s'amorce lundi. Là.
Absolument, mais je suis en forme. Est-ce que t'es content? Comment tu sens ça, partir en vacances?
En tout cas, donc cette semaine, on s'est senti l'été. Là. On n'a pas l'impression qu'on... T'sais, il m'est arrivé de partir en vacances dans une semaine qui a l'air automnale. Tu dis, voyons, ça va être quoi ces vacances-là? Mais disons que là, on a... On sent qu'on va pouvoir y goûter pleinement.
Et je me souviens, parce qu'on a quand même passé à travers en onde les derniers mois, là, et je me souviens quand même au plus fort de la pandémie, je me souviens que tu disais, je sais même pas si je vais prendre des vacances cet été, ça va-tu valoir la peine?
On savait plus si on allait avoir un été.
Ben, c'est ça. Et reste quand même, avec le on n'a pas l'été à 100%, toutes les activités, mais je pense qu'on va le savourer, tout le monde, tout ce qu'on a finalement et qu'on n'attendait plus. Là. Alors, j'espère que tu vas en profiter.
On va faire des choses plus simples, puis on va les apprécier. Oui. Bon, commençons avec le bilan. Bon, depuis une couple de jours, est-ce qu'il faut y voir une tendance lourde ou quelques hasards, là, quelques dents d'ici, mais on n'est plus en amélioration jour après jour. Là.
Non, on espère vraiment que c'est pas une tendance. Peut-être qu'on cible mieux aussi les tests. Hein? On se questionnait, on avait de la difficulté à avoir des gens pour passer des tests. Est-ce qu'on cible mieux? Du moins, on le souhaite parce que effectivement, aujourd'hui, 167 nouveaux cas. Évidemment, on a vu bien pire au Québec, mais on a eu des chiffres en bas de 100 là, il y a quelques jours. Et souvent, c'est quand même des tendances qui sont assez stables, les cas qui vont prendre une tendance d'un côté comme de l'autre. Alors, on va espérer qu'on voit ça changer pour le mieux dans les prochains jours. Sinon, au niveau des décès, 35 nouveaux décès, 5 dans les dernières 24 heures. On en ajoute 30 survenus avant le 11 juin. Là où ça continue de baisser, par contre, et ça, c'est toujours encourageant, c'est dans les hospitalisations. Moins 63 aujourd'hui. On descend là, toujours d'une cinquantaine et plus par jour. Donc, on est à 574 personnes hospitalisées. Ça fait pas si longtemps, on était à plus de 2000. Et 62 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 3. Alors, pour le réseau de la santé, là, c'est des bonnes nouvelles, mais disons que les cas, on va les surveiller, surtout qu'on est en déconfinement. Ouais. On voit qu'ailleurs, tout n'est pas parfait. Alors, il va falloir...
Tu nous parlais du lien entre la stratégie de test et peut-être le nombre de nouveaux cas. Mais là, quand même, un changement majeur dans la stratégie de test et qui est susceptible de toucher tous les citoyens.
Oui, on apprenait dans les dernières minutes que tous les patients qui vont se rendre à l'urgence, qu'ils présentent des symptômes de la COVID là, ou non, vont devoir se faire dépister. Le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a fait parvenir aux dirigeants des établissements de santé dans les dernières heures cette nouvelle directive, donc dans un courriel, on écrit aux dirigeants d'appliquer systématiquement les nouvelles directives, dont celle de tester les patients asymptomatiques qui se présentent à l'urgence. Pas nécessaire pour ceux-ci là, d'attendre l'obtention d'un résultat avant l'admission dans l'établissement, ou même d'avoir leur congé, mais au moins on pourra tester une partie de la population malades, ou du moins qui ont certains problèmes, ou au moins d'avoir des gens qui pourront faire les tests et qui seront suivis. On a dépassé les 15 000 tests en une journée à la fin du mois de mai, mais là, on baisse pas mal, même que dimanche dernier, on était à autour de 5 000 tests, alors que hier, on était autour de 10 000. Alors, c'est pas si mal, mais on veut augmenter les tests. D'ailleurs, l'objectif est d'en avoir 20 000 par jour encore là, d'ici les prochaines semaines et les prochains mois.
Est-ce qu'on a une date d'implantation de cette nouvelle politique?
Ben, écoute, on dit c'est ça, à mon avis, c'est dès que possible.
Demain matin?
Bonne question, parce que pour certains, ils vont faire le saut.
À mon avis, il y a un petit peu de temps là, pour que les tests soient disponibles aux entrées des urgences, la façon de les faire, etc.
À mon avis, dès que ça arrive, on va mettre ça en place. Et il y en a qui vont peut-être être surpris de se faire rentrer le long Q-tip là, dans le nez, mais ce sera pour...
Est-ce que quelqu'un pourrait refuser?
Bonne question.
De donner son consentement, je sais pas. Hein?
Et rendu
une
là,
personne dit, moi, je veux rien savoir, je me suis cassé un orteil, puis je veux rien savoir de votre test. Puis,
bonne question. On verra les détails, ça vient de sortir.
Ouais. Bon, la grosse nouvelle de ce matin, évidemment, c'était l'énoncé économique, la mise à jour économique qui était prévue. Le ministre Éric Girard qui a... Écoutez, il avait donné, monsieur Legault et lui, une fourchette entre 12 et 15 milliards pour le prochain déficit. Oui. On est dans la fourchette.
Oui, on est dans la fourchette. On est dans la fourchette. On peut pas aller beaucoup plus. Le 14,9 milliards. Donc effectivement, on est au maximum de ce qui était.
C'est pas grave, mais c'est quand même drôle. Le gouvernement donne une fourchette d'un déficit entre 12 et 15, là. Le chiffre qui sort, c'est 14,9. Là. C'est pas 12,1.
Oui, effectivement. On voit que la facture, puis évidemment, on en parlait beaucoup au fédéral, là, la facture qui va être immense, pour provincial aussi. C'est deux effets jumelés. Là. Évidemment, des dépenses considérables, particulièrement dans les équipements. Là. Parce qu'il faut dire, la course à l'équipement, là, bon, on suivait ça de jour en jour à un certain moment. Les masques arrivaient au compte-gouttes, mais les millions, eux, partaient très vite. Là. 6,6 milliards de dollars en équipement, là. C'est ce qu'on évalue là, pour d'ici la fin de la pandémie. Là, les masques, blouses, gants de protection, on en aura déjà cette année là, pour 2,3 milliards. Puis évidemment, c'est parce qu'il y avait les prix aussi se sont complètement enflammés. Là, on payait à certains moments des masques ou des gants, des prix complètement fous. Donc, il y a une facture à ça. Évidemment, là, c'était dans le but de protéger le système de santé, de le garder à flot. Et ça valait probablement la peine, mais la facture sera là. Et donc ça, il y a des coûts évidemment immenses, des plans de sauvetage, des plans d'aide. Mais là où il y a un immense trou aussi, c'est dans les revenus là, de l'État. Donc, 8,5 milliards. On tablait...
De travailler, reste à la maison, ça en fait quelques-uns qui tout à coup payent plus d'impôts. Là.
Évidemment, donc c'est énorme. On prévoyait, on se souvient là, de ce budget du ministre des Finances qui est arrivé tout juste avant la COVID. Bon, on se doutait bien que ces chiffres-là n'allaient pas tenir, là, mais on visait une croissance de 2% pour le PIB. Finalement, ce sera une contraction de 6,5. Donc, les revenus qui fondent de plus de 8 milliards, impact sur la dette brute du Québec de presque 23 milliards. Là, qui sera gonflé cette année et la dette brute en 2021 du Québec va atteindre 222 milliards. Pour la partie retour à l'équilibre budgétaire, ben, on se donne quand même une fenêtre pas trop longue. Là. 5 ans, c'est l'objectif d'Éric Girard, ce qui qualifie quand même d'ambitieux. Par contre, encore beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur la suite des choses. Je vous fais entendre là-dessus le ministre des Finances.
Il y a de l'incertitude quant à la possibilité d'une deuxième vague, l'espoir d'un remède, d'un médicament, d'un vaccin, incertitude sur le volume des échanges commerciaux, l'état de santé sanitaire de nos voisins, de nos partenaires commerciaux, incertitude au niveau des chaînes de production. Et donc, nos prévisions sont attachées d'un degré d'incertitude qui est plus élevé qu'à l'ordinaire. Nous nous donnons des objectifs ambitieux pour la suite. D'abord, économiquement, nous voulons retrouver à la fin 2021 le niveau de production que nous avions en décembre 2019.
Et on veut faire ça, Mario, sans hausse d'impôts. Il l'a répété, s'est fait poser la question, M. Girard, promet, c'était une promesse électorale, et ça, COVID ou pas, on va respecter ça. Pas de hausse d'impôts prévue, même si on est dans le rouge, pas à peu près.
On a quand même fait des provisions significatives là, pour la deuxième vague. Là. 4 milliards pour au cas d'une deuxième vague, c'est quand même que ça me paraît une prudence. Effectivement, c'est très imprévisible parce que si la deuxième vague provoque des petits confinements locaux ici et là, une région, une entreprise, peut-être que l'impact financier pour le gouvernement pourrait être pas si épouvantable, tu sais. Alors que si la deuxième vague frappe fort, autant en termes sanitaires, d'achat, d'équipement, santé, etc., qu'en termes de pertes économiques, tu pourrais avoir une autre claque, là, peut-être pas équivalente, là, mais comparable à ce qu'on a vécu ce printemps.
Et comme on dit souvent, des clés, c'est les tests, là. Ben, tu sais, avoir le, vu le, les coûts de faire des tests, là, c'est vraiment, c'est négligeable, là, par rapport au coût de perdre le contrôle. Parce qu'on dit, là, 500 000 tests, là, de dépistage, pour l'instant, ça a coûté à peu près 25 millions de dollars. On prévoit.
Ce qui est du change, là, dans l'ordre actuel des pertes et des
sur le 15 milliards, là, on prévoit dépenser d'ici la fin de l'année financière, peut-être autour de 200 millions de dollars en tests, là. Avec 20 000 tests par jour, ce qui est quand même énorme. Donc, on s'entend, je pense que le coût des tests, il n'y a pas de problème. Là. C'est pour ça qu'on est, on veut que les gens se fassent tester, puis on va tester les gens dans les hôpitaux parce que on a plus de gains que de coûts à tester davantage.
Et pendant ce temps, ben écoute, il se passe pas une journée sans qu'on ait une nouveauté. C'est quand même un déconfinement rapide. Il y a quelque chose de neuf chaque jour. Puis encore une couple d'affaires quand même majeur aujourd'hui, là, dont dans les CHSLD, je sais que ça fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que ça fait une espèce d'unanimité sociale, mais les gens qui travaillent à l'intérieur, qui ont vécu le cauchemar, disent on prend un risque.
Il y a une inquiétude, c'est ça. En fait, c'est un mélange d'émotions, oui, là. Parce qu'on comprend que pour des gens en CHSLD, de pouvoir sortir, recevoir des visites, rencontrer des gens à l'extérieur, participer à des activités de groupe avec certaines conditions, mais là, de pouvoir quand même le faire, c'est la bienvenue là pour beaucoup de gens qui demeurent dans les CHSLD. Et là aujourd'hui donc ça commençait possible pour les usagers de faire tout ça, sortir hors de l'installation pour plus de 24 heures. Évidemment, ce sont pour des CHSLD où il n'y a pas de COVID. Le recours des bénévoles sera autorisé d'ailleurs dès le 26 juin. Et où il y a de la COVID, c'est seulement les personnes infectées qui ne pourront pas bénéficier de nouvelles permissions, là. Alors, ça permettra quand même à des gens de pouvoir sortir un peu. Les regroupements d'un maximum de 10 à 12 personnes sont autorisés également, mais les groupes doivent toujours être les mêmes, là. Alors, il y a quelques règles, mais on adoucit ça quand même pas mal. Et pour monsieur, madame, tout le monde, les centres d'achat, les centres commerciaux, ben là, c'est autour de la communauté métropolitaine de Montréal, mais et autour, là, merci de Jolie, de rouvrir au public. Donc, ça se faisait aujourd'hui, peut-être parce qu'il fait beau aussi, parce qu'il n'y avait pas peut-être de grande urgence là, non plus à se lancer dans les centres commerciaux. Il n'y avait pas énormément de monde aujourd'hui. Je voyais des collègues de TVA Nouvelles qui sont rendus dans certains centres d'achat, Promenade Saint-Bruno, par exemple, et autres, là, où c'était quand même tranquille. Faut dire qu'un magasin sur cinq, à peu près, était ouvert. Ça va se faire vraiment graduellement, mais il n'y avait pas de foule monstre.
Des journées comme aujourd'hui, si on se mettait en période non pandémique, l'ordinaire, les médias recommanderaient, ben, avec l'appel de la santé publique, ben oui, là, à la population, d'aller dans les centres commerciaux pour se rafraîchir. Les gens qui vivent dans des petits logements, qui ont des problèmes d'asthme pulmonaire, cardiaque, etc., il fait trop chaud, on leur suggère là, au cœur de la journée d'aller passer du temps à l'air climatisé. On disait ça, aller dans les endroits publics, oui, où il y a la clim, dont les centres commerciaux.
Et c'est entre autres une des raisons pourquoi on a attendu beaucoup pour ouvrir les centres commerciaux. C'est ce qu'on avait peur, là. On se retrouve en regroupement de personnes âgées. Et là, bon, on a confiance que ça peut se faire de façon sécuritaire. Évidemment, ils ont toutes les plexiglas et autres. Ce qui est fermé, c'est toujours là les halte-bouffe, donc les endroits de restauration où c'est seulement pour emporter. Alors évidemment, beaucoup des restaurants n'ont carrément pas ouvert leurs portes.
C'est quand même étonnant qu'il y ait autant de magasins fermés, là. Autant de magasins qui décident de pas ouvrir. Bon, le maire Labeaume, lui, qui... partant d'une bonne intention, voulait avoir une activité ludique pour sa population, un ciné-parc gratuit, etc. Il n'a pas réussi à s'entendre avec les grands du cinéma québécois, les distributeurs. Il en ressort, quoi, on pourrait dire Mossad.
oui, on peut même dire carrément en colère. Ulcéré, là, effectivement. Monsieur Labeaume, clairement, il faut dire, le maire de Québec est quand même capable de démontrer quand il n'est pas content, là. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui en conférence de presse. Le projet de ciné-parc gratuit à Québec, là, c'est à l'eau. La ville de Québec était prête à dépenser 835 000 $ dans ce projet. Donc, pour que les gens puissent se rendre dans des ciné-parcs gratuitement. On allait présenter des films, de vieux films, là, gratuitement. La ville payait les droits.
Oui, il voulait présenter Daigne Dong, le film. Là,
exact.
Lui, il dit que c'est pas en compétition avec les cinémas qui présentent les derniers films sortis.
Exactement.
Ouais, ça me paraît logique, son affaire. Je comprends qu'on peut toujours dire les gens, ils ont un soir dans la semaine où ils vont consacrer leur sortie pour le cinéma, fait que s'ils l'ont gratuit, ils payeront pas.
Ouais, mais ce qui limite souvent une famille de sortir, c'est le budget. Là, c'est une soirée gratuite pour aller voir Karate Kid. Là, ben tu vas aller au cinéma un autre soir. Là, dans ma tête, là, si la famille a les moyens de le faire.
Les gens du cinéma se sont fait des amis à Québec.
Non, écoute, je vais te faire entendre d'ailleurs un extrait du maire Labombe, mais aussi une de ses répliques que j'ai trouvé intéressante par la suite. Là. Vous allez sentir quand même que M. Labombe est exaspéré. Il a rédigé une lettre, faut dire, à Patrick Roy des Films Séville, à Andrew Nob du regroupement des distributeurs indépendants de films du Québec, disant que c'est un manque flagrant d'empathie. Là. L'aspect concurrentiel est exagéré. On avait besoin de films d'un catalogue passé. C'est ce qu'on voulait qu'on charge à la billetterie. Et ça, on dit non. Le nœud de l'affaire est là, selon M. Labombe. Je vous fais entendre un extrait du maire un peu plus tôt aujourd'hui.
Je serais surpris que les films Beverly Hills Cop, Ding et Dong, le film et Karate Kid, on doute que ça prenne une place importante dans cette programmation. Nous aurions très bien pu nous entendre pour sélectionner des films qui n'entrent pas en compétition avec ceux présentés dans les cinémas d'ici.
Bon, et là où il marque quand même, à mon avis, un touché, monsieur Labombe rappelle que, enfin, il dit dans la lettre là, qu'il envoie, le financement de votre industrie repose en grande partie sur le programme de crédit d'impôt et de subventions en provenance de la SODEC et de Téléfilm Canada et donc de nos impôts. Par votre refus de collaborer à la réalisation de Cinéparc à Québec, vous privez les contribuables de notre région d'une activité que je qualifierais de petit bonheur en ces temps difficiles. Il est en colère.
Mais électoralement, c'est pas mauvais pour lui, là.
Non.
Il est du bord du peuple là, à deux mains. Puis en plus, je pense qu'il a raison sur le fond.
Faut dire que la ville prévoyait investir 835 000, mais n'avait que 27 000 $ de dépensés. Mais c'est quand même 27 000 qu'on a fait brûler, là.
Voilà. Et rapidement, les gens vont avoir l'impression que tu nous rejoues la même nouvelle qu'hier, mais c'est parce qu'elle s'amplifie chaque jour. Mais le nombre de cas, bon, dans quelques États américains, où ça augmente toujours, mais ça devient spectaculaire en Floride, là, l'ampleur de la pandémie.
Oui, parce que le dernier chiffre qu'on a reçu donc de la Floride montre encore un nouveau rebond, là, un rebond quand même impressionnant. Près de 4000 nouveaux cas là, en Floride, c'est 3822 nouveaux cas. Un record, hier le record, là, c'était quand même un bonbon, et c'est 3200 cas. Faut dire qu'il y a à peine là, autour du 10 juin, on était à peu près à 1000, un peu plus au-dessus de 1000 cas par jour.
Ce qu'on disait, qu'on n'était pas capable d'aplatir la courbe parce qu'on restait à 1000 cas par jour, mais on n'était pas capable de descendre.
On était à 1000 cas depuis le début du mois d'avril par jour. C'était stable, au moins, mais là, ça monte très vite, au point où, d'ailleurs, dans le Orange County, là, où il y a eu 374 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, on oblige le port du masque, donc c'est les nouvelles du jour, à partir de minuit samedi soir, le port du masque en public. La ville de Tampa également va faire le même type de règlement. Alors, certaines villes en Floride qui serrent la vis parce que clairement, on a un problème avec le nombre de cas. Là.
Est-ce que le président Trump a été informé de ce qui se passait en Floride?
À mon avis, il a été informé. Est-ce qu'il a tweeté là-dessus? Il a tweeté sur beaucoup de sujets aujourd'hui, Mario.
Mais pas celui-là.
Pas sur la COVID.
Ça l'intéresse peu.
C'est secondaire.
Voilà.
Je pense.
Vincent, rapidement, puisqu'on est toujours dans la COVID, des nouvelles mesures à l'aéroport, là. Hein?
Oui, qui vont s'ajouter dans le but. Il faut dire que l'aéroport de Montréal fait face à des gros défis financiers, là. Mais on veut que les gens reviennent et qu'ils soient à l'aise de le faire et qu'ils n'aient pas peur. Alors, l'aéroport de Montréal détaillé aujourd'hui le programme Voyager en toute confiance qui va ajouter toutes sortes de façons de faire, là. Donc, des masques obligatoires dans l'aérogare, contrôle à l'arrivée. Donc, c'est plus toute les portes là, de l'aéroport qui sont accessibles. Seulement 3, avec une station sanitaire, les gens qui se lavent les mains, il y aura des questions pour la santé, prise de température. Si vous allez chercher des gens, vous ne rentrez pas dans l'aéroport, c'est seulement les voyageurs, seulement les employés. Tout le monde a son masque, à l'exception des enfants de moins de 2 ans et ceux qui auraient des problèmes respiratoires là, ou un handicap particulier. Toutes les zones de passagers désinfectées 10 fois par jour, les taxis, donc transport pour aller et venir de l'aéroport. Ce sera également la même chose. Alors, une façon de faire qui, on l'espère, va rassurer les gens à retourner voyager. Parce qu'évidemment, quand même plusieurs obstacles. Tous les pays ne sont pas déconfinés. Il y a la question de l'assurance aussi pour voyager. Alors, ça recommence très lentement, là, disons, dans le milieu aérien.
Est-ce qu'on aura un été, des voyages, des vacances? Puis là, tout à coup, on est passé à l'autre extrême. On va voyager au Québec, tout le monde va voyager au Québec. Ça va être la manne pour l'industrie touristique québécoise. Puis on se demandait, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que les gens d'une région vont pouvoir aller dans l'autre région? On va essayer de voir comment ça se vit en ce début de saison, parce que quand même, à cette date-ci, avec du si beau temps, il y a des gens qui, ceux qui ont de la liberté, qui sont à la retraite ou qui sont déjà en vacances, qui ont pu commencer à le faire. On s'en va dans l'Est du Québec. Alain Renault, propriétaire du manoir Percé, à Percé, évidemment. Bonjour, M. Renault.
Bonjour, M. Dumas.
Ça se passe comment chez vous, là?
Ça se passe bien. Il fait très beau, puis on sent l'engouement des touristes là, qui commencent à arriver tranquillement. Et c'est ça. Fait qu'on sent l'engouement présentement. On est très content de voir
le beau temps. Vous dites qu'il commence à arriver tranquillement. Est-ce que vous êtes à pleine capacité à l'heure actuelle ou c'est un début par rapport à une saison où il n'y aurait pas eu de pandémie? Est-ce que vous êtes en plus d'achalandage, moins d'achalandage ou à peu près équivalent?
Non, ben faut dire que le mois de juin est toujours le début de la saison, environ vers le début juin. Là, présentement, on sait que le COVID a dérangé. On est ouvert, nous autres, depuis une semaine. Et ça commence tranquillement. C'est sûr que c'est timide comme commencement, mais ça regarde bien par les réservations pour l'été. Faut dire qu'avant le COVID, on avait janvier, février, mars, ça avait été des gros mois de réservation. On était quasiment complet. À partir du 15 juin, c'était quasiment complet. Mais le trois quarts des réservations sont annulées après. Mais là, on a beaucoup, depuis un mois, on a beaucoup de réservations qui rentrent. Je dirais que juillet et août vont être deux gros mois, puis peut-être septembre aussi. On dirait qu'il y a un engouement des Québécois de venir visiter la Gaspésie, puis c'est quand même au Québec, ça se fait bien en road trip ou comme on veut. Ça fait qu'on n'a pas d'autres provinces à passer.
Au manoir Percé, vous avez les deux, vous avez hébergement et restauration, là. Corrigez-moi, mais il me semble bien que c'est le cas.
Oui, c'est ça.
On va regarder les deux. L'hébergement, là, puis là, je parle de la COVID, là, je parle de tout ce que la santé publique vous oblige. L'hébergement, est-ce que ça vous complique la vie? Est-ce que vous perdez des nuitées pour la désinfection? Qu'est-ce qu'on vous oblige de faire?
Nous autres, comme c'est là, on n'est pas trop... Côté hébergement, ça va bien. Ça va bien aller. On a acheté un appareil, mais c'est ma conjointe qui l'a acheté. Je pourrais pas dire le nom, là. C'est un appareil qui désinfecte un peu comme on a dans les salles d'opération des hôpitaux, là. Qui désinfecte la chambre, puis on peut la louer.
Donc, quand vous faites la chambre, en plus des draps et tout, vous passez cette machine-là?
On passe la machine avant de faire la chambre pour que nos employés ne soient pas affectés.
Oh, OK.
Et après les femmes font le ménage tout de suite, parce que normalement, il faudra attendre 3 heures avant de faire le ménage. Ça fait que ça devient compliqué. Mais avec cette machine-là, ce qui est le fun, c'est que on passe là ça tout de suite, puis là on peut commencer la chambre tout de suite, fait qu'on n'a pas d'attente pour louer la chambre.
Ça prend combien de temps passer à la machine?
Ah, c'est pas long, à peu près 5 minutes par chambre.
OK, c'est pas si pire. OK. Fait que de côté hébergement, avec cette machine-là, vous vous en sortez pas si pire, ben vous désinfectez, vous assurez le prochain client qu'il n'y a pas de danger.
Oui, ben c'est ça, ça va être... Non, ça c'est... Ouais.
Les clients, ont-tu l'air inquiets? Est-ce qu'ils vous posent des questions sur tout ça, la salle de bain, la désinfection?
Pas comme c'est là, parce qu'on a mis toutes les affaires en place qui étaient indiquées. On a quand même... on a travaillé fort là-dessus, mais des choses en place. Fait que non, ils ne nous posent pas trop de questions. Ils savent...
Okay. Puis le restaurant?
Ben nous autres, c'est ça, le restaurant, notre salle à manger, nous on l'a fermé pour cet été. On le savait pas, puis on a quand même 60 places, puis là, travailler avec 30 places, c'était un peu compliqué, puis avec le staff, on a pris une décision de ne pas l'ouvrir cet été dans la salle à manger, parce que nous, c'est pas un restaurant, c'est une salle à manger, c'est un petit peu différent.
Puis les autres restaurants à Percé, est-ce que la plupart des restaurants sont ouverts?
Oui, la plupart sont ouverts, oui, ils sont tous ouverts, à place réduite, là, bien sûr, mais ils sont tous ouverts, puis tout le monde est prêt, là, on voit l'engouement dans le village, les gens, ça peinture, ça fait plein de les beautés pour accueillir le monde, les gens arrivent, puis des touristes arrivent, fait que je pense qu'on va avoir une belle saison malgré tout, c'est sûr que, pour que les gens soient patients, c'est sûr que ce ne sera pas comme... ça sera pas comme d'habitude parce que tout est réduit à près du 50% d'attente. Mais par contre, il y a pas de problème, tu sais, ça va bien aller, puis les gens sont qui sont heureux de en tout cas, les appels qu'on reçoit, les gens ont hâte de venir. Ben moi, j'ai ma salle à manger est fermée, mais je vais quand même donner mon... Parce que moi, pour faire une histoire vite, je suis une entreprise de pêche. Je suis pêcheur d'homard à parfait. Et mon homard est tout vendu dans mon restaurant. Pas tout au complet, mais une partie de mon homard est vendue dans ma salle à manger. Mais là, vu qu'elle est fermée, je vais faire du homard take-out quoi, pour sortir, puis les gens peuvent manger dans leur chambre. Ou peut-être sur la terrasse, parce que c'est une terrasse, fait que je vais faire marcher ma terrasse, mais seulement du homard que j'ai pêché moi-même, qui va être sorti, qui va être...
Un bon lobster funny. Roll face au rocher percé, là, ça donne pas sa place. Là. Hein?
Non,
Monsieur Renaud!
Les gens nous demandaient.
Monsieur Renaud, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance, bon été.
Okay, au plaisir.
Au revoir. Et on enchaîne, ben, si vous descendez vers Percé, là, sur la 132, oui, de Vincent, t'allais dire?
Ben, parce que moi, j'ai habité à Matane aussi, là, alors sur le chemin, et quand j'étais petit aussi, le fameux capitaine Omar, là.
Fait que tu connais le prochain rendez-vous, c'est un must, c'est un des restaurants sur le chemin, qui est très apprécié, quelque part, entre Rimouski et Matane, à mi-chemin, le capitaine Omar à Sainte-Flavie, Laurence Marquis en est la propriétaire. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Oui, vous avez commencé à voir passer du monde au Capitaine Omar?
Ben oui, absolument. Mais nous, ça fait un petit moment qu'on est ouvert, là. Pas le restaurant, évidemment. Là. Mais on a plusieurs services, dont une poissonnerie. Fait que ça fait depuis le 8 mai dernier qu'on est ouvert.
OK, donc la partie poissonnerie, vous aviez le droit d'ouvrir, là?
Oui, c'est ça, étant donné qu'on est un service essentiel, mais comme vous le savez probablement, on est nouvellement propriétaire. Fait que c'est pas l'ouverture qu'on s'attendait nécessairement cette année. Oui. Ça va là, un peu petit à petit. Fait que on a comme eu plusieurs ouvertures, mais c'est ça. Cette semaine, c'est comme la grande ouverture des restaurants. Puis on est bien contents, ça va bien, ça fait du bien de voir.
Une table sur deux?
Une table sur deux, oui, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas un gros entrepôt pour mettre toutes nos tables pour l'instant. Là. Fait que oui, c'est ça. C'est une table sur deux en ce moment.
Est-ce que vous voyez, parce que c'est la première clientèle, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert, est-ce que c'est les locaux qui sont allés vous encourager ou est-ce qu'il y a quand même des gens de passage un peu, des gens d'autres régions qui passent en touriste? Qu'est-ce que vous observez?
Je vous dirais que c'est un bon mélange des deux. On a beaucoup de locaux, on a beaucoup de gens, des touristes, des Québécois, évidemment, cette année, beaucoup.
Ouais.
Puis je pense que tout le monde, là, autant de Rimouski, des alentours que de l'extérieur, on avait tout hâte, moi inclusivement, on avait tout hâte de voir du monde, on avait hâte de sortir un peu puis d'avoir l'esprit là, justement de la restauration qui est le fun là, de sortir, de se faire servir, d'avoir un beau coucher de soleil à côté, le soleil fort aussi. Fait que je pense que ça fait du bien à tout le monde. Fait que notre petite ouverture, c'est pas fait comme prévu, mais on est quand même assez satisfait pour l'instant de comment ça va malgré tout.
Êtes-vous optimiste pour la saison qui s'en vient?
Ben, je suis optimiste. Je vois vraiment, je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie. Fait que je pense que j'essaie de rester positive. C'est une belle entreprise qu'on a. C'est un beau coin de pays qu'on a aussi en Gaspésie. Fait que oui, je suis positive. Puis s'il fallait être négatif, je pense que il faudrait s'arrêter là parce que c'est pas ça d'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'aller voir toujours un petit peu plus loin. Fait que je pense que c'est une dure année, mais malgré tout, il y a des points positifs. Puis ça peut juste mieux aller.
Le homard est bon?
On est positif. Le homard est délicieux, évidemment. Le homard de la Gaspésie, je me trompe pas, là. Je pense que ça fait l'affaire de tout le monde que le homard soit prêt, justement, pour la saison estivale. Fait que, oui, le homard est délicieux, effectivement.
Madame Marquis, bon été. Bonne chance.
Merci beaucoup.
Au revoir, Laurence Marquis, la propriétaire du Capitaine Omar à Sainte-Flavie. Pour les gens qui savent pas c'est où Sainte-Flavie, Vincent, là,
oui.
C'est là que tu arrives à une croisée de chemin.
Oui.
C'est écrit 132S à droite, 132S tout droit. Fait que si t'as jamais compris que la Gaspésie, c'est la 132 qui fait le tour, là, t'es perdu. Tu dis, OK, 132S, 132S.
C'est les deux choix,
tu vois. C'est unique au Québec, là. Je pense pas qu'il y a d'autres endroits où, tu sais, t'as une route qui est annoncée la même avec deux flèches différentes, là. Tout droit, 132S, à droite, 132S, mais bon.
Mais j'avoue que prendre la route vers la Gaspésie, c'est pas qu'il y a beaucoup de gens en ville qui rêvaient de ça il n'y a pas si longtemps et qui vont peut-être s'y diriger là, dans les prochaines semaines.
Je vais te donner mon dernier conseil aux gens qui sont jamais allés en Gaspésie, qui vont y aller. Parce que j'en ai trop vu ou trop entendu qu'ils disent, ben, Gaspésie, on a fait ça en deux jours, rien là. C'est Parce qu'il faut que tu débarques de ton char.
Ah non, ben, deux jours.
Non, mais il y en a vraiment. Il y en a qui vont coucher à l'autre bout, puis ils reviennent. Puis ils passent par le nord, ils reviennent par le sud, ou ils repassent par le sud, ils reviennent par le nord, puis ils disent, ben, rien là. C'est sûr que si tu restes dans ton char, c'est une route en asphalte.
Ben, c'est ça. Il faut apprendre à ralentir un peu aussi, là, pour apprécier le paysage, faire le tour des villages.
Voilà. Puis aller voir un peu.
Voilà.
Aller voir et goûter. Alors, Vincent, dans les choses qu'on surveille, l'Organisation mondiale de la santé, là, qui a quand même répété son inquiétude pour la suite des choses.
Oui, parce qu'on parlait de la Floride, Oklahoma. Je voyais les chiffres en Arizona qui sont inquiétants aux États-Unis, mais c'est pas seulement aux États-Unis qu'il y a des rebonds de cas de la COVID-19. Ça amène l'OMS à ça. D'ailleurs, c'est le cas en Italie qui s'inquiète. On peut pas dire un grand rebond, mais à Rome, entre autres, on s'inquiète d'une circulation du virus qui est encore importante. Et là, l'OMS dit on est dans une phase dangereuse. Là. Je pense qu'il résume quand même assez bien, c'est-à-dire que le virus est encore là et les pays sont en mode déconfinement. Il y en a beaucoup, dit le monde, est fatigué de rester à la maison, fatigué des mesures. Alors, on est très vite à tout lâcher là, puis à se dire, OK, c'est terminé. Le problème, c'est que ça repart et on s'imagine l'humeur générale. Est-ce que les gens sont capables de encaisser un nouveau confinement ou d'autres règles très sévères quand ça va repartir dans certains pays? Ça va être difficile. Là. Alors, on demande la vigilance et que les gens lâchent pas sur les mesures de distanciation, le masque et tout ça.
On se souvient de l'entrevue qu'on a faite cette semaine avec une femme à Pékin qui vivait le reconfinement. Ça passe pas bien. Et Vincent, donc on surveille, on en parlait avec Normand, mais donc les yeux aux États-Unis vont être rivés beaucoup sur la ville de Tulsa en Oklahoma, parce que dès ce soir, on doit commencer des mesures exceptionnelles pour protéger l'événement du président.
Oui, il y a déjà des gens qui campent là depuis des jours là, pour pouvoir entrer à l'intérieur de cet amphithéâtre. Et alors qu'aujourd'hui, on en parlait, là, c'est cette journée 155e anniversaire là, du jour où les derniers esclaves au Texas ont appris qu'ils étaient libres. Journée importante, il y aura des manifestations. Et Trump a mis en garde les manifestants sur Twitter aujourd'hui, disant tous les manifestants anarchistes, agitateurs, pillards, voyous, ou des low-life, là, des pas de vie, qui allaient venir dans l'Oklahoma. Comprenez bien, s'il vous plaît, vous ne serez pas traités comme vous l'avez été à New York, Seattle ou Minneapolis. Ce sera une scène bien différente. Alors, en gros, promet que ils vont se faire tabasser, là, des menaces carrément auprès des manifestants. Ensuite, la Maison-Blanche est revenue en disant non, on parlait des manifestants là, violents, pas des pacifiques, mais est-ce que ça va faire monter le ton? C'est possible.
Ah, Vincent, voilà qui conclut notre saison. Je vais commencer par remercier nos auditeurs, leur donner rendez-vous à la rentrée au mois d'août. Je te remercie toi, je te souhaite un bon été.
Merci, en espérant qu'on revienne à l'automne, Mario, avec des bonnes nouvelles puis une vie normale.
Oui, les meilleures nouvelles possibles. Remerciements à Luc Fortin, qui est au contenu, le grand patron du contenu à Cube Radio. À la mise en onde, là, ils se sont relayés toute la saison. Sam, Gabriel, Max et Joannie. À la recherche, Alexandre, qui tient le fort, mais qui a été aidé à plusieurs reprises par Frédéric, Marie-Pierre et Véronique. Donc, merci à vous tous et aux auditeurs que je remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite surtout un très, très, très bel été. Essayez de profiter pleinement, même si vous n'avez pas 100% des activités. Profitez pleinement de ce que vous aurez. Vincent, merci. Salut, bon été.
Salut, toi aussi.